et bienvenue dans le podcast Lectus. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Phare 23, un livre qui a été écrit par Hugues Howey, mais peut-être que vous le connaissez différemment. Parce que par exemple, si je te dis Silo, série, Apple, est-ce que tu connais? Ça te dit quelque chose?
Ouais, je connais. Elle est dans ma liste de séries à regarder. Okay. Mais du coup, j'ai pas encore eu le temps de la regarder. J'ai pas non plus lu les livres du coup qui s'intitulent...
Silo du même nom.
Voilà, Silo du même nom, éponyme, je cherchais, voilà.
Ah oui, c'est ça. Et oui, donc si l'univers de Silo vous a plu ou si vous êtes curieux, on vous invite à regarder la série et éventuellement à lire donc ce premier one shot un peu space opéra qui a été écrit avant Silo. On a eu 2016, Silo 2021, quelques années auparavant. Ça l'a peut-être d'ailleurs lancé dans le genre ou dans l'histoire.
Oui, peut-être. On n'a pas trop regardé.
C'est vrai, peut-être qu'il y a des liens. Et donc avec ce one-shot Phare 23, donc on va retrouver un univers, comme on le disait, space opéra. C'est vraiment ce qu'on attendait de la science-fiction, ce qu'on se disait, c'est parmi les livres de la saison qu'on est en train de lire, c'est le premier tout de suite... qui a coché toutes les cases.
Oui, là, on est vraiment à fond dans la science-fiction. T'es dans l'espace, il se passe des choses, il y a des martiens ou pas. Enfin, là, on est vraiment à fond. Ça fait très Star Wars, quoi.
Oui, un peu.
C'est vrai. Ça fait un peu ça.
Oui, la guerre galactique, l'espace, les voyages à la vitesse de la lumière, etc. Tu peux nous en faire un résumé?
Oui, alors, donc pendant des siècles, les gardiens de phare ont assuré la sécurité des bateaux. Et au 23e siècle, on pratique toujours ce métier, mais dans l'espace. Donc c'est là, en fait, perdu au milieu de la galaxie, que se trouve la balise 23, qui est occupée par un vétéran de guerre, dont le travail, c'est tout simplement de guider les vaisseaux, en fait, qui voyagent à plusieurs fois la vitesse de la lumière à travers la voie de lactée. Donc c'est un travail plutôt solitaire, plutôt ingrat, et il se passe pas grand-chose. Sauf quand il se passe quelque chose.
Mmh. Mais on vous invite à continuer l'épisode pour découvrir qu'est-ce qui se passe vraiment. Dans ce livre, on assiste un peu à la mise en scène du destin d'un homme rongé par l'infinie solitude des confins de l'espace.
Oh, c'est beau ce que tu as écrit.
C'est profond. T'as vu ça? Première phrase de mes notes qui résume un peu
l'esprit du livre,
un peu ça. D'ailleurs, on commence directement par un chapitre qui s'appelle Les petits bruits.
Oui.
Et c'était assez drôle parce que on retrouve notre personnage. On sait que c'est un homme, il est dans la trentaine. D'ailleurs, au niveau de la narration, on utilise le je, mais à aucun moment dans le livre on ne saura son nom.
Oui, alors c'est ce que j'étais en train de me dire parce que je me dis, est-ce que je suis passée à côté du truc et Mais non, en fait, c'était le nom de la planète que j'avais écrit, ou de la Voie lactée. Mais oui, non, on ne sait jamais comment il s'appelle, donc ça reste un homme mystérieux. Et en fait, c'est son journal de bord, finalement, qu'on lit, en fait, dans le roman.
Très introspectif. C'est vrai, journal de bord, journal intime. Mais on verra à la fin, il y a une symbolique. On sait pourquoi, effectivement, l'auteur a choisi de ne pas trop donner le nom. Je sais pas si tu te souviens.
Non. Ah, tu vois ma tête là. Non, franchement, je me souviens pas.
C'est bien, comme ça, on en discutera.
Ça se trouve, j'ai pas du tout compris la fin et tu vas éclairer ma lanterne, peut-être.
Interprétation, on verra.
Et donc, on retrouve ce vétéran, donc qui est aiguilleur de l'espace, comme on le disait dans le résumé. Donc, il est chargé de diriger les vaisseaux pour qu'ils puissent traverser le champ d'astéroïdes où a été placé le phare et éviter forcément les naufrages.
Oui.
Et donc, dans ce premier chapitre, comme tu me disais, on va découvrir l'intérieur de bon, ça s'appelle un phare, mais c'est une balise, en fait, le vrai nom. Mais lui, il appelle ça un phare. Et on va retrouver notre personnage qui en fait, est extrêmement agacé par des bruits très, très énervants à l'intérieur de son phare.
Oui, on sent vraiment la nervosité du personnage. Il y a plein... il est chargé d'assurer le bon fonctionnement des machines qui, a priori, peuvent fonctionner en autonomie, parce qu'on est dans le futur.
Oui, oui.
La science, niveau technologie, a priori, est beaucoup plus avancée que nous. Mais il y a quand même des hommes dans ces balises pour assurer la maintenance. Il connaît parfaitement tous les bruits de son vaisseau, mais là, pour une raison qu'il ignore, il y a une petite machine qui font des bruits, et ça le rend complètement barjo.
Ouais, il est complètement taré. Hein. Enfin, on nous explique la pièce la plus importante de la balise qui est le OG, qui est l'émetteur d'ondes gravitationnelles. Et en fait, il s'aperçoit que donc il y a tous ces bruits très très relous en fait qui l'énervent au plus haut point. En plus, il se fait des films, il est persuadé que c'est des mecs qui ont apporté des espèces de petites blattes qui font ces bruits et qui dérèglent tous les bruits dans son vaisseau. Enfin,
oui, parce que comme de par hasard, dès qu'il s'approche des machines,
hop, ça fait plus de bruit.
On n'a plus rien. Donc il y a une paranoïa qui s'installe et tout de suite, on a un parallèle avec Robinson Crusoe. Je sais pas si toi, tu l'as ressenti comme ça, un peu Wilson, le ballon.
Un peu.
Ça commence, ça deviendra encore plus flagrant plus tard. Mais on a tout de suite ce parallèle qui peut commencer à naître.
Ouais, donc du coup, il s'aperçoit que son émetteur d'ondes gravitationnelles est froid et il émet plus de signal, en fait, qui indique que la voie est sûre pour les vaisseaux. Donc il se dit, putain, le OG est en panne. Donc s'il est en panne, les cargos qui passent, en fait, pourront pas savoir qu'ils peuvent passer en toute sécurité. Donc ils vont se crasher, quoi. Là, il commence à paniquer, il se dit, ouais, mais en fait, c'est sûr, mon phare, il a été piraté par des gens. Enfin, ouais, vraiment, il devient paranoïaque à fond. Et c'est très bien écrit dans le livre. Alors, en plus, j'ai bien aimé le ton est assez inhabituel. Enfin, c'est très... ça fait très Hollywood, hein.
Oui. C'est vrai que c'est très cinématographique et très humoristique, comme ton...
Oui, voilà, ça fait un peu comme... comment il s'appelle, le film...
Genre, ça fait Gardien de la Galaxie, un peu, tu vois, dans cet esprit-là.
Oui, il y a complètement cette vibe dans le bouquin. Mais en tout cas, voilà, il commence à paniquer parce qu'il se dit, si le OG n'envoie pas les ondes, ben, les vaisseaux spatiaux vont se crasher. Donc, il sait qu'il y a un gros cargo de luxe qui doit arriver bientôt. Et là, surtout, avant, il y a un autre petit vaisseau qui doit passer avec, personnes.
Un vaisseau cargo, puis après un vaisseau transport. Il sait qu'il a quelques minutes pour réagir. Donc, il va commencer son protocole standard, qui a été guidé par la NASA. Alors, ça fait très un peu... faut débrancher la box.
Le premier truc, débrancher et rebrancher.
C'est ça. Pour voir si au redémarrage, effectivement, ça remarche. Donc, il essaye de faire ça. Tout est normal au redémarrage. Et puis, hop, de nouveau, les alarmes se réactivent. Alors que à Houston, au niveau de la NASA sur la Terre, on lui assure que tout va bien. Donc, il comprend pas vraiment d'où ça vient. Et donc, le premier vaisseau cargo arrive, et là, forcément, c'est le crash. Mais il n'y a pas eu le temps, en tout cas, de sauver ce vaisseau-là.
Ouais.
Mais il arrive quand même à sauver in extremis
l'autre cargo.
Vaisseau transport.
Ouais, c'est ça, parce que donc il y avait le petit vaisseau, donc là, il y avait 8 personnes, donc eux, ils s'éclatent contre un astéroïde. Il peut rien faire. Donc, bon, ça le travaille quand même. Il se dit, moi, mon seul job, c'est de faire en sorte que les vaisseaux y passent sans encombre, et là j'ai une panne, et du coup il y a des gens qui sont morts entre guillemets à cause de moi, donc déjà c'est un peu dur. Mais il a pas trop le temps de s'apitoyer sur son sort, parce qu'après il y a un énorme cargo avec 5000 passagers qui doit passer, et là il se dit en fait, si le truc se crash, ça va être encore pire, quoi. Et finalement il arrive à, je sais plus comment, mais il répare son truc d'émetteur,
je crois, oui. En tout cas, oui, il arrive à le refaire fonctionner.
Mais
au bon moment.
Pile au bon moment.
Ouais.
Donc, du coup, il a de la chance. Le cargo passe sans encombre.
Et tu te souviens pourquoi il est aussi touché de la mort de ces quelques personnes et de ce vaisseau cargo? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'on sait de lui, de son histoire, ce vétéran de guerre?
De mémoire, lui, il a combattu pendant de longues années, en fait... pas sur Terre, mais du coup vraiment dans la galaxie. Est-ce qu'on sait déjà qu'il a été muté entre guillemets ici, ou...
Oui, c'est ça, on sait que il a été blessé. Il a été grièvement blessé. Et que il a été médaillé pour une action.
Oui, on sait pas encore trop.
Et donc il a été réaffecté à son choix dans cette balise et dans ce secteur, parce que il voulait un coin tranquille,
il voulait
qu'on lui foute la paix. Donc on apprend effectivement que c'est un héros de guerre, et qu'il y a donc dans l'espace une espèce de guerre galactique entre les humains et les Rhys. Alors ça fait très Stargate Atlantis, pour ceux qui ont la ref, avec les Rhys, des espèces de d'hommes insectes, on parle de ruches et tout, enfin ça fait un peu cette ambiance.
Oui.
Et donc il assiste impuissant au crash du vaisseau cargo, il arrive à sauver in extremis le vaisseau de transport. Et quelques temps après, quelques minutes, quelques heures, il voit apparaître ce qu'il appelle des naufrageurs, des pilleurs d'épaves. Alors, a priori, ils font couler les bateaux pour vivre, puisqu'ils arrivent et ils ramassent un peu tout ce qui...
Oui, les vaisseaux... Ouais. Oui, en fait, on a... Là, depuis le début, on fait beaucoup de... d'amalgame entre vaisseau et bateau, mais c'est parce que dans le livre, le personnage fait lui-même, en fait, beaucoup de...
Des parallèles.
Voilà, des parallèles oui. entre les vrais navires, comme à l'époque, et lui, ce qu'il fait, en fait, dans l'espace.
Oui, bah, le phare, voilà. La balise, les vaisseaux, les bateaux.
Voilà, ça. Les mecs... c'était une vraie tactique à l'époque d'emmener les bateaux se faire cracher sur les côtes, et après, du coup, de ramasser tout ce qui était éparpillé, quoi. Donc là, effectivement, il voit ces personnes qui viennent piller les trucs qui ont été explosés, en fait, contre les astéroïdes.
Et ça confirme un peu ses soupçons. Il se dit, ok, là, on m'a vraiment saboté, puisque c'est pas la coïncidence, elle est trop flagrante.
Oui, ils peuvent pas être permis de nulle part, venir comme ça. Donc c'est sûr que c'est eux qui ont fait les bruits chiants dans mon phare et tout.
C'est ça.
Qui ont créé la panne. Et après, on le retrouve 7 jours plus tard.
Oui.
Et entre-temps, donc, il a quand même dû faire un rapport à Houston. Donc, son phare est connecté avec des transmissions à une base, donc à Houston, sur Terre. Parce qu'on apprend qu'il travaille pour la NASA, au final. Et donc, il doit faire des rapports quand même sur s'il se passe un truc, voilà, etc. Donc, il leur a dit, ouais, moi, je suis sûre qu'on est venu me déposer des vivres ou je sais pas quoi. Et dedans, il y avait des trucs parasites qui ont déréglé mon phare et que c'est pour ça qu'il y a eu l'accident, etc. Donc, il a été mis en quarantaine.
Oui.
C'est-à-dire que personne ne peut venir le voir. Enfin bon, pas qu'il y ait des gens qui viennent le voir, mais les personnes ne peuvent pas descendre quand il se fait ravitailler, je crois, tous les... C'est très long, en plus, c'est tous les mois, même non, trois
ouais,
mois.
Oui, je crois que... Bah, il dit qu'il reste dans ce phare pendant 2 ans, des rotations de 2 ans.
Oui.
Et qu'il est ravitaillé, ouais, je sais plus, peut-être tous les 3 mois, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est pas, c'est non, pas non, toutes les semaines.
Il a quasi jamais de visite, quoi. Et donc, sur sa petite balise, voilà, c'est là où, effectivement, on en apprend un petit peu plus que c'est un vétéran, machin, héros de la guerre, qui voulait être peinard, donc, du coup, il a fini à la balise 23. Et, effectivement, il y a cette menace de guerre, en fait, dans la galaxie qui se rapproche au fur et à mesure, et ça lui cause beaucoup d'insomnie. Et au-delà de ça, il a aussi du mal à dormir, parce qu'il se dit, bah, des gens, ils sont morts à cause de moi dans ce vaisseau, et du coup, il fait des parallèles avec quand j'étais à l'armée, mes camarades sont morts aussi dans les tranchées, etc. Donc il y a beaucoup de parallèles entre ses pensées et
ses souvenirs.
Ses souvenirs, ouais.
Et puis il est clairement en stress post-traumatique. Enfin, le gars, il est marqué par la guerre plus. Et d'autant plus qu'il y a cette culpabilité d'avoir laissé mourir le vaisseau cargo. Il en est responsable. Alors que la NASA le critique, lui, pour pas avoir filmé les conséquences de l'accident.
Oui.
Et, c'est quand même incroyable.
On aurait pu voir ce que ça donne,
voilà,
etc.
C'est ça. Pourquoi vous avez pas filmé et tout. Donc bon, oui, c'est vrai, il y a toute une réflexion comme ça sur un peu le sens... De la mort, enfin pas le sens de la vie mais le sens qu'on donne à sa mort. Derrière, il y avait une phrase qui était très belle, je l'avais notée: mourez sans bruit et vous êtes un chiffre, mourez de façon spectaculaire et vous êtes un nom.
Oui, mais oui, il y a plein de trucs très sympas écrits dans le livre, parce que voilà, ça reste un roman où le personnage fait beaucoup d'introspection sur lui-même, sur ce qu'il ressent, sur ses souvenirs, qu'est-ce qu'il peut en tirer, etc. Donc il y a voilà, pas mal de réflexions un peu philosophiques. Et oui, c'est vrai que ouais, moi, j'ai bien aimé le style d'écriture un peu... Ouais, voilà. Enfin, il dit plein de gros mots, tout ça, quoi. Ça colle bien au personnage du vieux vétéran.
Oui.
Enfin, vieux vétéran en soi, non, parce qu'il a une trentaine d'années, donc pas tant. Et
nouvelle alarme.
Et oui, encore une. Mais, finalement, et qu'est-ce qui se passe?
Et bah, il y a un signe de vie qui est repéré dans les débris du cargo. Et donc, il va demander à Houston la permission d'aller vérifier pour une sortie dans l'espace.
Bah, c'est même pas ça, c'est eux qui l'obligent à aller voir. Lui, il voulait pas y aller.
Oui, c'est vrai. Ils disent oui, ça se trouve, c'est rien.
Oui, il avait la flemme de sortir avec son vaisseau pourri. Il dit vous êtes sûr et tout, et il n'a pas le choix, donc il doit y aller, ouais.
Ok, oui, c'est vrai. Et donc il se rapproche avec son vaisseau auxiliaire de l'épave, du cargo. Et en fait, le signal de vie provient d'un tas de lettres et de colis postaux. Et il se rapproche encore, il voit une boîte en bois rouge. Il la ramène au phare sans l'ouvrir, sans savoir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a juste une étiquette dessus où c'est indiqué Université d'Oxford. Et son destinataire, c'est un certain professeur, Allard Bookman. Et dans cette boîte-là, en fait, il va trouver un caillou. Mais il entend, c'est une petite voix qui sort de cette boîte et qui lui dit, vas-y, ouvre-moi, qu'est-ce que tu fous, j'ai failli mourir et tout.
Ouais.
En ouvrant cette boîte, il y a donc un caillou qui parle.
Ah, vraiment, what the fuck? Moi, ça, franchement, ça m'a fait rire, c'est tellement improbable. Donc effectivement, il découvre un caillou. Donc le caillou, en plus, est hyper vénère parce qu'il était à deux doigts de crever. Donc il lui dit, bah, file-moi de l'eau et tout. Enfin, il parle vraiment... Tu sens que le caillou, il est pas sympa, tu vois. Et en fait, il décide de lui donner un nom, alors qu'il a déjà un nom, le caillou. Du coup, ça le fait trop chier qu'il se fasse renommer. Et il va l'appeler Rocky, ce qui est nul comme nom. Et vraiment, et du coup, le personnage se tape un énorme fou rire, ce qui apparemment arrive pas souvent, du coup, dans l'espace.
C'est vrai.
Et en plus, il est à poil parce qu'il a dû enlever toute sa combinaison. Donc, il est vraiment mort de rire à poil devant le caillou qui parle. Et il se fout de sa gueule parce qu'il a un accent, en fait, le caillou.
Oui, c'est vrai. Accent anglais, british.
Oui, très distingué, quoi. Tu sais, ok, donc le mec a trouvé un caillou dans l'espace et maintenant il parle.
Ouais, alors ils apprennent à faire connaissance, ils parlent des planètes sur lesquelles ils ont vécu. Rocky, donc le caillou, il lui dit qu'en fait c'est un assistant de recherche du professeur. Et donc là, pareil, gros fou rire, c'est notre aiguilleur de l'espace, il dit « Ah ouais, donc tu es donc une pierre philosophale
!» Il est plié, vraiment, il rigole trop avec son caillou, quoi. Enfin, pas avec, mais du caillou, parce que Rocky, ça le fait pas trop rire.
Oui. Et donc là, on sent vraiment que... Enfin, autant il était nerveux, déprimé, et là, bon... notre aiguilleur, il est un peu plus... ça apaise un peu ses tourments, il était très seul, et là, il a un caillou... C'est la compagnie qui rêvait.
Mais quand même, le caillou, donc, il discute de pas mal de choses, comme tu l'as dit. Et donc, ça le fait beaucoup rire, parce que c'est vrai que c'est un peu improbable d'avoir un caillou qui parle. Mais en même temps, ça, le personnage, ça va pas le choquer, parce que bah, on est dans un univers de science-fiction, c'est l'espace, donc tu rencontres forcément des trucs un peu bizarres et tout.
Même au niveau de toi, en tant que lecteur, tu dis un caillou qui parle, ouais, ok.
Ouais, moi au début, j'étais en mode... Bah, c'est trop con, mais en même temps,
on dit quoi
pas. Ouais, bah, c'est vrai. Pourquoi pas, tu vois. Donc, bon, il continue à parler avec son caillou, et finalement, Rocky, il a un peu ce côté un peu psychologue, où à un moment, il lui dit, bah, l'armée, mon pauvre, ça t'a complètement foutu en l'air, quoi.
Ouais.
Et donc, le personnage va entendre cette phrase, et il va se mettre à pleurer.
Ouais.
Vraiment, le gros ascenseur émotionnel, genre, je rigole comme un fou, et en fait, après, il pleure vraiment à chaudes larmes. Et il va raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il était à l'armée. Donc là, c'est pareil, on apprend un peu plus. D'ailleurs, on avait su un petit peu avant, quand il avait pris le vaisseau pour aller récupérer le caillou, qu'en fait, le personnage avait été pilote.
Oui.
Enfin, il avait perdu son travail parce qu'il était devenu alcoolique. Et du coup, ça devenait un danger public. Donc, c'est pour ça qu'il avait été mis après dans l'infanterie. Et donc, il lui raconte comme quoi il a sauvé beaucoup d'hommes lors d'une opération. Qui s'est réveillé à l'hôpital et qu'il a eu une médaille. Voilà. Donc il lui raconte tout ça. Et qu'est-ce que Rocky répond? Tu sais plus?
Mais je m'en souviens. Bon, je sais pas ce qu'il répond, mais par contre, on sait que. Ou alors il répond pas.
Bah oui.
Ah oui, bah c'est
il
ça.
Il répond pas.
Il répond pas parce que, bah, on se rend compte que Rocky, en fait, c'est une grosse allure.
Voilà. Il n'y a jamais eu de caillou qui parle.
Et non.
Le mec est complètement.
On y a cru, mais.
Complètement jeté. Le caillou, il parle pas du tout. Et moi, je disais en mode, ah, ça c'est bien trouvé ça.
Oui, parce que ça te fait croire quelque chose en fait. Non,
bah, l'univers en fait est tellement propice à ce genre de truc que tu te dis, ok, c'est bizarre, mais en même temps ça peut exister.
Ouais.
Et au final, non, tu te rends compte que le mec est schizophrène et il s'invente des amis cailloux.
C'est vrai, c'est vrai.
Et qu'est-ce qui se passe après? Je sais pas si tu te souviens.
Après le caillou?
Oui.
Et bah, il s'en fait un collier.
Ah oui, c'est vrai.
Il se dit, ok, bon, j'ai vraiment trippé très fort.
Ouais.
Mais.
Bah, pour pas oublier que.
Mais je l'oublie pas.
Voilà. Non, mais c'est aussi pour se rappeler que justement, il doit faire attention
oui,
à lui-même, entre guillemets, tu vois. Mmh. Pas croire tout ce qui se fait croire à lui, enfin, chelou. Et du coup, il perd ce caillou, il s'en fait un collier.
Ouais, parce qu'il y avait toute une question autour de la perception du réel. Parce que quand t'es seul dans l'espace, avec du coup, la balise et le OG, avec les ondes, tu peux. Ça peut des fois te jouer des tours, quoi. Ça peut, ça peut faire jouer ton cerveau, te faire imaginer des choses.
Mmh.
Donc, c'est pour lui un moyen de se rappeler qu'effectivement, il faut qu'il questionne en permanence ce qui est réel autour de lui. C'est pour ça qu'il garde Rocky.
C'est ça. Et donc, passé l'épisode avec Rocky, il décide de faire un petit état des lieux des incidents qu'il a eu, des derniers pépins. Donc, il dit, ben voilà, le premier pépin que j'ai eu, c'est le crash du cargo. Le second, ben, c'est clairement d'avoir parlé à un caillou alors que, voilà. Et le troisième, en fait, qu'il a eu, c'est que les panneaux gravitationnels se sont mis à osciller, en fait, dans son phare. Et que du coup, ça l'a brassé, en fait, de bas en haut de manière répétée. Donc, il s'est vraiment fait taper comme une pâte à pain.
C'est 0G gravité. 0G gravité. Donc, t'imagines très bien le gars.
C'est ça. Donc, il s'est fait ramasser la gueule. Il est vraiment dans un état pitoyable. Et il explique, en fait, dans son journal qu'il pourrait se faire rapatrier au vu de ses blessures, parce que visiblement, ça l'a quand même bien, bien tabassé. Mais il sait que il vaut mieux qu'il reste, en fait, dans son phare, et que de toute façon, il n'en a plus pour longtemps à vivre, donc pourquoi repartir, se faire rapatrier, il préfère rester là où il est. Il choisit, même en étant dans un état lamentable, de rester là où il est, il veut vraiment rester tout seul, quoi.
Ouais, il y a un parallèle entre l'état de son phare et son état à lui, soit au niveau physique ou psychique, et c'est la première fois aussi qu'on nous dit qu'il nous cache quelque chose. Il est venu là pour une certaine raison, c'est qu'il a un secret. Pour l'instant, on ne le connaît pas encore, mais c'est la première mention. Et donc après cet épisode des panneaux gravitationnels, nouvel épisode qui va s'ouvrir. Il y a un vaisseau en approche. Donc il se contacte avec la radio, et en fait c'est un US Marshal en mission officielle. Donc on assiste à l'arrivée d'un chasseur de primes qui s'appelle Mitch Oshie, et son animal de compagnie, qui s'appelle Cricket, un espèce de Varten, mi-chien, mi-léopard.
Ouais, mais il a pas de nom au début, c'est lui qui l'appelle Cricket après. Le truc a pas de nom, je crois, de base.
Ah, je croyais que c'était Mitch qui l'avait appelé Cricket.
Je me souviens plus, mais pour moi c'était lui qui l'avait renommé.
Ah, peut-être. Ça se peut.
Possible. Si vous lisez, vous nous direz qui a raison, parce qu'on se souvient plus.
Et donc, il est à la recherche, ce chasseur de primes, il est à la recherche d'une femme dangereuse, une révolutionnaire, et donc il va lui demander si jamais il l'a vue. Et a priori, il a vu personne.
Bah franchement, lui, il est dans son phare, dans le trou du cul de la galaxie, il voit jamais personne à part les vaisseaux de ravitaillement, donc il a vu personne, quoi.
Et là, arrive un deuxième vaisseau, un autre tracker, Vladimir Bostokov, puis un troisième, une espèce de ninja silencieuse.
Ouais.
Il va y avoir trois chasseurs de primes qui vont lui demander exactement la même chose, à savoir s'il a vu la fameuse femme, quoi.
Donc lui, il dit toujours que non, il a vraiment... il sait pas qui c'est, donc repartez, quoi. Enfin, moi, j'ai pas de réponse à vous donner.
C'est ça. Il remonte dans son cockpit et dans le OG, et il y a une femme qui l'attend en braquant une arme sur lui, dans la salle. Ils se reconnaissent. A priori, ils ont servi ensemble pendant la guerre, et ils ont eu une petite histoire, une petite amourette. La femme, elle s'appelle Scarlett, et donc elle recherche notre homme, notre aiguilleur de l'espace, pour le convaincre de mettre fin à la guerre avec l'Iris. Est-ce que tu te souviens c'était quoi son argument, et qu'est-ce qu'elle lui explique
Alors là, j'ai un petit doute, je sais plus exactement, donc effectivement, en fait, ils se connaissaient, donc on comprend qu'il a pipoté les trois chasseurs de primes en disant « Non, je vois pas du tout qui c'est », alors que « Mec, t'as couché avec, donc vraiment, tu l'as pas oublié ». Et je sais pas, elle lui parle... En fait, elle essaie de lui arracher la vérité sur qu'est-ce qui s'est passé la dernière journée, en fait... où il a servi, et là où il a eu notamment sa blessure au torse, parce qu'elle sait qu'il ment sur vraiment comment ça s'est passé. Il l'a dit à personne, et en fait elle veut savoir la vérité, on sait pas encore, pour arrêter la guerre, mais du coup on sait pas en fait comment c'est lié les deux choses.
Oui, c'est ça.
On sait pas quel est le rapport entre les deux, mais en tout cas c'est important qu'il lui livre la vérité.
Elle lui parle aussi du
livre.
Oui, alors c'était que... Alors, elle commence comme ça, elle commence à lui parler d'une série de bouquins un peu aventure, propagande, qui disaient comment on combat les RIS, des aventures. Et elle disait, ça n'a pas été écrit par des hommes, ça a été écrit par des RIS. Et l'auteur aurait juste inversé les genres, quoi, les races.
J'ai noté les aliens, en fait, c'est nous, quoi. C'est
Pareil, tu vois, j'ai noté l'ennemi c'est l'autre et vice versa.
Oui, voilà,
c'est pour prouver qu'il n'y avait pas, il n'y a pas un camp qui a raison, un camp qui a tort. C'est chacun étant, on va dire, est plongé au sein de dans la guerre et invente ses propres mythes autour de ça, quoi.
Oui, c'est ça. Et donc il va quand même lui raconter la dernière bataille. Donc il lui explique qu'en fait, donc c'était une guerre qui se passait sur Yata, donc la planète Yata. Il devait déclencher une bombe pour justement tuer tous ces
Riss.
Et parce qu'en fait, oui, comme tu l'as dit, ça ressemble un peu... ça doit faire des espèces de trucs qui ressemblent... Quoi, qui sont décrits un peu plus tard. Donc c'est pas vraiment des grosses abeilles, mais en tout cas, ils vivent dans des espèces de ruches. Et lui devait déclencher une bombe pour justement tuer tous les Rhys en gestation.
Ouais.
Sauf que, en fait, il n'a pas le temps de le faire parce qu'il y a ce qu'on appelle un lord, Rhys, qui va l'éventrer. Et c'est de là que vient, en fait, sa grosse balafre. Et comme il n'a pas réussi à déclencher la bombe, en fait, il lui explique à Scarlett que ça fait de lui un traître à la patrie.
Ouais, c'est même pas qu'il a pas réussi à...
Il a pas voulu.
Ouais, c'est à déclencher la bombe, c'est ouais. qu'il a pas... Il l'a pas fait.
Ouais, il a pas osé, ou... Enfin, voilà, il a pas voulu appuyer, donc il lui déballe un peu ça, et ils ont pas le temps de finir de discuter, parce que... Qui revient ?
Mitch, Oshi.
Oui, le chasseur de primes.
Le chasseur de primes, alors donc il était, comme le phare est en quarantaine, il avait pas le droit de débarquer sur le bateau, mais il va faire comme Scarlett est arrivée a priori avec lui, qui est au courant, donc il va... débouler sur le bateau. Scarlett fait exploser le deuxième vaisseau, entre-temps.
Celui du mec dandy, là.
Ouais, le Vladimir.
Bah, en fait, c'était lui qui revenait en premier, je crois. Parce que, tu sais, il devait donner des rapports, du coup, le personnage principal, sur les derniers trucs qui s'étaient passés dans son phare, et sauf qu'en fait, il a communiqué les signatures thermiques.
Ouais.
Et du coup, forcément, ils
ont vu qu'il y avait quelqu'un d'autre.
Donc, effectivement, elle fait exploser le bateau. Ensuite, il y a Mitch qui revient s'arrimer au phare.
Ouais.
Et là, il y a une bagarre, en fait, qui se fait. Bah, Mitch est tué.
Par Scarlett.
Par Scarlett, ouais, tout à fait.
Qui elle-même est tuée.
Par la ninja.
C'est ça.
Qui revient en scred et qui la bute et qui l'emmène.
Mm-hmm.
Donc, le personnage, il a à peine le temps d'avoir retrouvé quelqu'un de son ancienne vie pour discuter d'un truc ultra important. Ils ont même pas fini la conversation qu'en fait elle se fait tuer vraiment devant ses yeux et la ninja elle l'embarque vraiment comme un courant d'air sans un bruit et il se retrouve tout seul avec le Warten
ouais.
qui est le félin extraterrestre qui appartenait à l'un des chasseurs de primes.
Ouais c'est ça et là notre homme il est vraiment au bout du bout, il a deux doigts de se foutre en l'air, il va dans le sas pour la sortie pour l'espace et il dit que c'était un petit rituel qu'il avait. Il compose les deux premiers chiffres sur trois et il attend.
Oui.
Et là, il est vraiment à deux doigts de composer le dernier, quoi.
Oui, pour que le truc s'ouvre et qu'en fait, il parte ouais. dans l'espace, quoi.
C'est ça. Mais le Warten, donc il a baptisé Cricket, l'aide un peu quand même à se remettre de cet épisode. Le fait d'avoir un animal de compagnie, ça l'empêche d'avoir des idées noires. D'autant plus que, a priori, c'est une race alien qui a le don soit de télépathie ou d'empathie. Enfin, il y a ce...
Du coup, il dit... en fait, il sait pas trop. Il se dit, j'ai l'impression qu'elle comprend ce que je ressens et que je peux la calmer en pensant très fort à certaines choses. Mais moi, à un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il pète pas un câble comme avec son caillou, tu vois ?
Oui.
Et il se fait pas des rêves, enfin, on sait pas trop, mais en tout cas, bon, il est content parce qu'il est plus tout seul.
Oui.
Donc, il se retrouve avec Cricket, qui est, on le rappelle, un mélange de chien et de léopard, hein, et qui fait 50 kilos quand même.
Et il est doublement plus tout seul, puisque face à la catastrophe du vaisseau cargo, la NASA a décidé d'installer un autre phare. Et donc il va le voir clignoter en permanence, et il commence à devenir obsédé par l'idée qu'il y a quelqu'un dans ce phare qui fait comme lui. Et donc oui, il commence un peu à psychoter dessus.
Bah oui, il se dit « Ah ouais, putain, il y a une nouvelle balise, j'ai potentiellement un nouveau voisin ». Et en fait, la tentation est trop forte de retrouver un peu de côté social, et il va décider d'aller voir, en fait, directement à la nouvelle balise.
Ouais, parce qu'il y a un signal de détresse qui émet un jour.
C'est ça. Et donc, il se dit, let's go, j'y vais, quoi.
Ouais.
Et qui il va découvrir à l'intérieur ?
À l'intérieur, il y a une femme, donc c'est une accordeuse. Elle est chargée de simplement mettre en service le nouveau phare. Elle s'appelle Claire. Et donc, les deux vont faire connaissance. Lui, il se présente avec un de ses surnoms. Donc là, c'est la première fois où on peut l'appeler par un nom, même si c'est pas son vrai nom. Il s'appelle Digger. Donc, ils font connaissance. Lui, il fait des allers-retours, il fait des navettes entre les deux phares. On apprend aussi que c'était un soldat, qu'elle était sur Yata au moment où Digger a réussi à faire fuir les Rhys.
Ouais.
En n'appuyant pas sur la bombe.
Oui, parce qu'en fait, la compagnie de Claire, donc, qui est la cordeuse, était bloquée depuis plusieurs semaines et ne pouvait pas sortir. Et en fait, le fait que le personnage, donc Digger, ait fait cette grosse diversion, finalement, ça leur a permis d'en rééchapper, quoi. Sinon, elle serait morte, en fait, là-bas.
Oui, elle a été aussi blessée, du coup, il y a une comparaison, ils comparent un peu leur histoire, leurs blessures.
Oui.
Ils arrivent à se confier, quand même, sur ses états d'âme. Comprend qu'il n'est pas le seul à souffrir Et bah, ça les rapproche finalement, ils entament une relation, tous les deux. Et puis, donc par rapport à ce qu'on disait au début du livre, une des clés d'explication données par l'auteur sur le fait qu'on ne saura jamais le vrai nom du personnage, c'est que ça, c'est un peu comme bah, pendant la guerre, comme il y a des soldats qui sont utilisés comme de la chair à canon.
Ah oui,
le
oui,
fait
je
de
me souviens.
Pas savoir leur nom.
Oui, ça permet finalement de pas t'attacher.
Ouais, c'est ça.
Ok.
Ça met une distance en fait avec,
oui,
avec les
souviens.
Autres. Quoi.
Oui, oui, c'est vrai. Enfin, j'avais pas fait le parallèle du coup avec le fait qu'on nous donne pas son vrai prénom.
Ouais, c'est une première clé. Il y en a une autre à la fin du livre, mais en tout cas, c'est une première piste.
Et ben finalement, avec l'arrivée de Claire, donc comme l'a dit Justine, ils entament une relation amoureuse. Donc ils vont chez l'un, chez l'autre. C'est vraiment une relation plutôt classique. Lui, il fait en sorte de pouvoir lui acheter des chocolats et des fleurs quand il se fait ravitailler pour du coup lui emmener, etc. Donc c'est vraiment le petit couple avec son énorme chien extraterrestre. Et ça dure un petit moment comme ça, où voilà, ils font leur vie tous les deux, chacun dans leur phare quand même à surveiller un peu ce qui se passe, hein, parce que ça reste le but de leur boulot.
Et ils s'amusent aussi, tu sais, avec l'expérience, avec le OG.
Ah oui, parce qu'en fait, donc l'émetteur d'ondes gravitationnelles, le digger, le personnage principal, il va souvent pour se poser la tête contre et il dit, bah, en fait, ça envoie des ondes et ça me détend.
Ouais, ça le shoot.
Voilà, ça le shoot, genre comme boire un whisky, quoi. Et donc il explique ça à Claire et Claire le croit pas en fait, elle lui dit mais mec le truc ça n'envoie pas d'onde en fait,
pas censé faire ça.
C'est toi qui hallucines complet quoi. Donc elle décide de faire des expériences en lui disant bah vas-y mets-toi contre le OG et moi je te dis pas s'il est allumé ou pas et toi tu vas me dire et comme ça elle fait une expérience pour savoir effectivement si c'est lui qui affabule complètement ou si effectivement il y a quand même des ondes qui passent. Donc voilà, ils occupent bien leur journée en tout cas. Et finalement, on apprend aussi que Claire, elle n'est pas accordeuse. Elle est vraiment... En fait, elle va être attribuée au phare.
Oui, elle fait le choix de demander à la NASA,
De rester.
Ouais,
elle devient aiguilleuse.
Pour rester avec lui, ouais.
Ouais, donc lui, il est content quand même.
Oui. Et nouveau rebondissement. Un nouveau vaisseau en approche.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Un faucheur, Eris, donc un vaisseau ennemi. Donc là, il y a vraiment la guerre est à leur porte. Clairement, il y avait des échos, des nouvelles par des cargos qui passaient par-ci, par-là, comme quoi ça se rapprochait de secteur en secteur. Et là, donc, sort de l'hyperespace un faucheur, Eris. Donc ils vont tenter de fuir, Claire et Digger, avec Rickett. Mais Digger, il va rester en arrière pour essayer de sauver les deux. Il va prendre son vaisseau et puis il va essayer de faire partir... Le vaisseau ennemi. Ils vont entrer en collision, les deux. Ça va créer une brèche dans le vaisseau de Digger. Il va être aspiré en dehors du vaisseau. Et trou noir.
Bah ouais. Bah là, il se dit, bah ouais, je me sens mourir, quoi. Enfin, l'air est pas respirable, mes poumons sont en train de geler, je suis en train de crever, quoi.
Oui, oui. Et au final, il va se réveiller à l'intérieur du phare avec le Lord Rhys de ses souvenirs.
Bah celui qui l'a éventré, en fait, pendant la bataille de Yata.
C'est ça, tout à fait. Et il y a aussi Claire et Cricket qui ont été, été retrouvés par...
on apprend aussi que Scarlett, donc celle qui était venue sur son vaisseau, finalement c'était leur émissaire pour justement mettre fin à la guerre.
C'est ça, donc ils ont un message pour Digger et une mission. Ils vont lui proposer de couper le OG à l'arrivée de l'armée humaine pour faire exploser tout simplement la flotte
entière.
Ouais, afin de leur prouver que les humains, ils veulent la paix, enfin, qu'ils sont capables de la vouloir, qu'ils ont un libre arbitre, et en échange, ils promettent de faire la même chose avec leur flotte.
Ouais. Donc là, ça pose un petit cas de conscience, parce que bah, tu te dis, ouais, en plus, on doit d'abord éclater la nôtre de flotte, et qui nous dit qu'après, ils vont faire la même chose, ou alors ça se trouve, c'est vraiment coup de poker. Donc là, Digger, il hésite beaucoup. En plus, Claire, elle est persuadée que c'est un piège, donc elle arrête pas de lui dire « mais non, mais fais pas ça et tout ». C'est sûr que voilà, ils sont en train de... Il y a entourloupe, en tout cas.
Ouais,
elle, elle est persuadée.
Oui, clairement. Et puis c'est le dilemme moral du livre.
Oui,
au final, c'est est-ce que je vais trahir ma propre espèce? Est-ce que je vais trahir, faire mourir des millions de personnes?
Pour rien, peut-être.
Pour rien, peut-être. Ou pour pouvoir sauver un futur hypothétique? Enfin, ouais. C'est vraiment le cas de conscience du livre.
Et en plus, à ce passage du livre, il y a quand même une hésitation, parce que donc Claire est vraiment la voix de bah non, il faut pas leur accorder la confiance et tout. Et au même moment, il arrive à reparler de nouveau avec Rocky, qui est toujours accroché à son cou.
C'est vrai.
Et donc vraiment, tu te dis, bah non, le gars, il est encore en train de repartir de sa schizophrénie, genre il entend des voix, enfin, est-ce qu'il va faire un choix avisé ou est-ce qu'il va faire un choix selon ce que lui se fait croire, tu vois.
Ouais.
Donc il y a toute cette interrogation sur finalement qu'est-ce qu'il va faire.
Ah ouais, il va choisir de désactiver le OG et c'est un fin de chapitre, on n'en saura pas plus.
Non.
On est propulsé quelques semaines après au Conseil pour la paix de Yatta. Donc a priori, ça a bien marché.
Ouais.
Et c'est un peu la conclusion du livre, en fait, tout simplement. Il y a ensuite un épilogue où on dit que Digger est rentré sur Terre, donc à la recherche du phare de son poster, parce qu'il y avait un poster qui
représente au tout début,
phare, dans son phare, dans sa valise.
Mm.
Et donc il est en train de le rénover. On apprend qu'il est devenu gouverneur planétaire. Claire est toujours avec lui, elle attend leur enfant,
ouais.
Et elle voudrait lui donner son nom, sauf que Digger ne le dévoilera jamais.
Bah si, il lui dit, mais en fait c'est emporté dans le bruit du vent. Mm. Donc en fait, même nous, en tant que lecteurs, on ne sait pas vraiment comment il s'appelle. Et ça se termine là-dessus.
Ça se termine là-dessus avec une morale, c'est les derniers mots du livre. En gros, il vaut mieux choisir le pardon à l'escalade.
Ouais, tout à fait.
Ce que j'ai trouvé un peu... pas cohérent avec le dilemme moral, parce que vraiment le fait
si en soi ça marche, mais c'est là enfin il a eu du mal à choisir, parce que du coup pour préserver la paix il fallait faire un choix qui incluait vraiment énormément de violence.
Oui c'est ça.
Du coup ça va à l'encontre de la définition même de la paix, mais que enfin je trouve que il faut quand même sacrifier des fois soit on va dire son ego, soit effectivement certaines personnes en se disant bah ok je fais un pas vers l'autre, et du coup même si c'est dans un bain de sang, si après ça me permet d'apaiser les choses, bah pourquoi pas, tu vois.
Oui, c'est un peu ça, c'est l'idée d'un mal pour un bien.
Ouais non, clairement c'est ça, mais
quand même, enfin quand on lui demande tue tout l'armée humaine,
oui,
et on fait la même chose, bah là pour moi clairement c'est l'échec de la diplomatie, l'escalade elle est là, c'est genre tu bousilles tout. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi le sacrifice de l'armée humaine, ça représentait le pardon. Enfin, pour moi, l'escalade, tu vois ce que je veux dire, c'est pour moi, c'était pas... j'ai pas très bien compris lien entre le dilemme et la dernière phrase du livre, tu vois.
C'est parce que les risques, qui sont l'espèce extraterrestre, ils se disent, en fait, il faut les forcer à faire un choix qui est hyper important, qui est de sacrifier vraiment toute leur flotte militaire. Donc, ça représentait des milliards de personnes presque, hein. Je sais plus combien ils avaient dit, mais c'était énorme. Parce qu'en fait, ils s'étaient aperçus que, quoi qu'il arrive, les humains, il y avait toujours, en fait, une quête de pouvoir, d'argent et de recherche de ressources qui, du coup, entravent les humains de manière générale et les empêchent de vivre dans la paix. Donc au final ils se sont dit là ça montre bien que ils sont assez réfléchis pour se dire ok, on tue toute notre puissance militaire. Moi je trouvais que ça faisait sens en tout cas.
Ouais, ok.
Mais après oui, je peux comprendre.
Ah, ou alors dans le sens où l'humanité doit pardonner à à un homme d'avoir fait ce choix là pour pouvoir sauver le reste, c'est ça.
Faut pas lui en tenir rigueur.
Plutôt dans ce sens-là, ok.
Ouais, après, j'imagine que dans ce genre de cas, t'es toujours obligé de faire des sacrifices, quoi qu'il arrive, qu'ils soient importants, genre une compagnie, ou que ce soit une armée entière. Si après, ça peut te permettre d'avoir la paix, pourquoi pas.
Mais plutôt comme ça.
Mais le problème, c'est que c'est rarement pour avoir la paix, en fait,
oui,
que tu fais la guerre. C'est parce que tu veux choper les ressources de ton voisin. C'est jamais... dans cette optique de on va vivre bien ensemble, quoi.
Ouais, ok. Donc, comme ça. D'ailleurs, c'est la dernière clé de lecture que j'avais notée par rapport au fait que l'auteur ne dévoile jamais le nom. C'était justement, comme il nous disait, que les héros finalement, on retient leur nom, mais lui, il voulait pas justement qu'on retienne le sien. C'était lui, dans tous les livres, son but, c'est de se faire oublier, en fait.
Oui, il a pas du tout... lui, il voulait vraiment être peinard, oublier ce qui s'était passé. D'ailleurs, donc, dans le livre, le syndrome post-traumatique du personnage principal est très, très bien décrit. Et d'ailleurs, il a souvent tendance à contrer ce syndrome de stress qu'il a eu par rapport à la guerre, avec beaucoup d'humour et d'autodérision. C'est un livre où il y a quand même beaucoup d'humour, moi j'ai trouvé. Et voilà, le personnage, il n'hésite pas à se décrédibiliser, on va dire. Enfin, il a bien conscience de comment il est, et il n'est pas, enfin, il n'est pas du tout dans l'ego, quoi, en tout cas.
Oui, c'est vrai. Oui, parce que ça, on aurait pu hein, partir sur le cliché du GI. Enfin, il y avait ce truc-là un
Oui.
peu, le guerrier, le soldat.
Oui, inébranlable, qui est toujours hyper positif et tout. Non, non, là, il fait vraiment face à des questions existentielles. Ah, bah voilà, il se sent pas bien, mais des fois il sait pas trop dire pourquoi. Enfin.
Oui, ça parle de la sensibilité aussi masculine. Il y a un moment, il parle bah, quand il rencontre Claire et quand il fait sa connaissance. Il dit qu'il désapprend la honte de pleurer.
Oui, parce qu'il vient d'une famille un peu cutéreux aux États-Unis et que bah, pleurer c'était très mal vu. Et il parle aussi de son père, comme quoi la seule fois où il l'a vu pleurer, c'est quand il a écrasé son chien avec son tracteur.
C'est vrai.
Et il n'avait pas compris, lui, il était à l'époque très en colère parce qu'il partait, il s'engageait dans l'armée genre 2 jours après. Et en fait, il dit, bah, je comprends pas, mon père, il a pleuré sur la mort de son chien qui était déjà très vieux en plus, donc voilà, vraiment, c'est entre guillemets pas grave. Et moi, par contre, je partais à la guerre et il s'en foutait, quoi. Donc Claire a dû lui expliquer, bah, en fait, souvent, c'est la somme de plusieurs gros trucs. Et après, il y a un tout petit truc qui te fait craquer, et du coup, elle dit, bah là, ton père, il a craqué parce que le chien est mort. Mais avant, voilà, il avait perdu sa femme, ou je peux quoi.
Oui, c'est vrai.
Il y avait tout un truc,
Ouais,
quoi.
Oui. Et puis au final, il s'en veut justement de pas avoir été là pour son père à
Oui.
ce moment-là, en fait.
Oui,
Il
de pas
dit,
comprendre, de pas avoir compris qu'il avait besoin. Parce qu'en gros, il a fait une petite tape dans l'épaule en
Ouais.
mode, non
Gentil.
mais, ça va aller, ouais.
C'est
Ok.
vrai.
Ouais, voilà, il y a quand même. C'est un livre où il y a de l'espoir, de l'optimisme, un peu de renoncement parfois, où tu te dis, bah en fait, le mec va se faire sauter le caisson. Mais globalement, après est-ce que tu trouves qu'il y a des points négatifs au livre?
Eh ben, des fois, je me suis dit que ça allait très vite et qu'on était parti directement dans, on va dire, dans les grands combats manichéens du bien et du mal. Enfin, pendant toute une partie du livre, on suit un bonhomme sur son phare et là, il faut qu'il règle la paix dans la galaxie. Tout de
Oui,
suite, c'est
alors,
très grand, très
ouais.
petit et très grand,
Oui,
tu
puis
vois.
je vois pas pourquoi ce serait lui, tu vois. Enfin,
Oui.
si, parce que c'est le seul qui a
Avec
pas
son
dû
histoire et
vouloir
tout
faire
ça.
exploser une planète et tout, donc ils se sont dit il y a un potentiel, mais.
Ouais. Finalement, il y a très peu de marge de manœuvre entre l'effet un peu introspectif du livre et les enjeux qui sont quand même énormes
Oui, non, mais c'est clair. Hein.
de l'histoire.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de redites sur les questionnements du personnage.
Ok.
Alors après, ça va aussi avec le fait qu'il est dans son phare et qu'il a que ça à faire que de penser toute la journée au même truc.
En mode ouin-ouin?
Bah ouais, enfin, c'est souvent les mêmes pensées qui reviennent. Moi, j'ai trouvé que dans le livre, c'était un petit peu long parfois, et un peu trop de rappels aussi sur des trucs qu'on savait déjà, mais qu'il a tendance à redire. Et du coup, ça alourdit un peu le récit. Enfin, j'avoue qu'il y a des fois, j'étais, on s'en fout, tu vois, on sait déjà, genre, accélérons un peu, quoi.
Moi, je l'ai ressenti, mais finalement, je trouve que le livre l'a débunké. C'est-à-dire que quand tu vas pas bien, des fois, tu as tendance à tourner en rond quand
Non, mais je
même,
suis d'accord.
tu vois, sur tes, sur
Oui,
ton,
oui.
enfin, sur
Ce
toi,
qui
ta
va pas.
situation, sur ce qui va pas et tout. Et c'est quand, bah, encore une fois, quand il rencontre Claire et quand il se rend compte que bah, d'autres comme lui ont souffert de la guerre, ont vécu voilà, les mêmes traumas, là, du coup, tu apprends à prendre un peu du
De
recul.
recul.
Et tu vois les choses un peu différemment, et tu prends plus en compte les sentiments des autres, et tu t'essayes pas de minimiser les tiens, mais juste de pas imposer ta souffrance à d'autres, quoi.
Mais ouais, il y avait quand même quelques moments où enfin, je trouvais que c'était un peu long à lire. Mais après, globalement, oui, ça, là, pour le coup, c'est un des livres qui colle le mieux à l'univers science-fiction. Là, on a tout, quoi, la totale, la guerre interstellaire, les extraterrestres, tout ça, le héros incroyable qui sauve l'univers. Là, on est à fond dedans, quoi.
Un peu anti-héros, mais oui, effectivement,
Oui, alors par
c'était
contre, il y a un
oui.
côté anti-héros,
Ouais.
parce que voilà, le gars, il pue, il se lave jamais, il est toujours à moitié à poil dans son phare, mais voilà, ça colle bien avec son personnage et comment il est.
Ouais, clairement. Est-ce que tu le recommanderais, ce livre-là?
Il est pas mal, mais après, il m'a pas non plus emballé plus que ça.
Ouais.
Et
Moi, je suis
toi?
un peu comme toi. Mais je me faisais la réflexion aussi, c'est en dehors de ce livre-là et de la saison en général. Mais en fait, c'est très rare les livres qui te marquent et que tu recommandes. Au final, tu vas prendre plaisir à lire. Ça va être un
Oui.
bon moment. Mais je veux dire, c'est rare les livres qui te restent en tête et où, que tu as envie de faire découvrir aux autres.
Bah en plus c'est enfin ouais, c'est un savant dosage de bah, des trucs que toi t'affectionnes hein, parce qu'il y a des gens ça se trouve leur livre préféré c'est Phare 23 tu
Mais
vois.
de ouf.
Donc c'est vraiment un truc hyper personnel. Donc en soi, le livre, voilà, il est bien pour ce qu'il est, mais c'est vrai qu'il m'a pas... Enfin, je l'ai pas trouvé extraordinaire, quoi.
Par contre, je pense que... Alors, si ça fait pas un livre ouf, je pense que ça fera un bon film.
Alors par contre, je me suis dit, pareil. Je me suis dit, ça serait vraiment dans la même veine que Silo, là, pour le coup. Donc l'autre roman de l'auteur qui a été adapté, ça marcherait trop bien.
Mais...
Ça se lit.
Mais ça se lit. Et ça s'est bien lu, finalement, c'est assez vite.
Oui, oui, oui.
C'était pas non plus... Même s'il est court, ça se lit vraiment très facilement comparé à d'autres. On va bientôt parler.
Oui, oui, oui. Okay, oui.
Mais oui, effectivement, c'était un livre, écoute, sympa. Sympa.
Pour l'univers, ouais, c'est, ouais, ça peut mettre un pied à l'étrier, on va dire.
Oui, je veux dire, pour commencer, si vraiment on se dit, bon, la science-fiction, on imagine que c'est ça... Et qu'on veut découvrir, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Bah, vous vous ferez votre avis, en tout
voilà,
cas, on espère que...
C'est horrible comme conclusion, c'est genre, bof.
Il est moyen, mais bon, vous pouvez quand même le lire. En tout cas, si vous lisez, n'hésitez pas à donner votre avis sur Instagram. Et puis, nous, on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.
Salut.
Salut.